Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 14h à la une aujourd'hui. Libérer, démasquer au bureau, à l'école, dans les transports, ce pourrait être une réalité dès la mi-mars, dit le ministre de la Santé, si le recul de l'épidémie de Covid se poursuit. Nous entendrons Olivier Véran dans ce journal, nous serons aussi dans un bar lyonnais avec les habitués déjà ravis de pouvoir consommer au comptoir dès aujourd'hui. Dans ce journal aussi, le plus dur est à venir, il faut un effort sans précédent pour redresser les comptes publics après le quoi qu'il en coûte, dit aujourd'hui la Cour des comptes. 9 milliards d'économies par an, on va feuilleter le rapport des sages, avec entre autres un gros plan sur la gestion des maisons de retraite. Dans cette édition aussi, nous vous emmènerons en Ukraine, où l'on célèbre aujourd'hui la journée de l'unité, une sorte de nouvelle fête nationale, alors que le retrait russe de la frontière orientale reste très incertain. Et nous célébrerons une 13e médaille aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle est en or, breloque décrochée ce matin par Clément Noël en slalom.
Beaucoup de bonheur, de soulagement, d'émotions qui se mélangent et puis qui font qu'on a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. C'est très court comme effort ce qu'on fait, mais après ça met un peu de temps à revenir les pieds sur terre.
Noël joyeux, tout comme sa station de ski d'origine Ventron dans les Vosges, on verra ça. On en parlera aussi avec Nathalie Péchala, directrice de la Fédération Française des Sports de Glace et chef de la délégation française aux Jeux Olympiques. Elle sera notre invitée à 13h30. Il sera aussi question de JO en général et de sport au féminin. Vos questions 01 45 24 7000. Enfin, dans C'est une chanson, Frédéric Pommier et le dessinateur de BD Fab Caro nous feront écouter du Julio Iglesias. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le masque chirurgical ou FFP2 pourrait bien quitter la liste des accessoires indispensables au printemps. Le ministre de la Santé esquisse un horizon pour libérer enfin nos bouches et nos nez en entreprise, à l'école, dans les transports. En clair, dans les lieux non soumis à passe sanitaire, puisque dans ceux-là, on pourra se démasquer dès le 28 février. Olivier Véran pose toutefois des conditions à cette libération.
Si on suit, et on suivra vraisemblablement notre stratégie d'allègement proportionné à la gravité de la situation sanitaire et épidémique. Si on suit cette dynamique, et bien 15 jours après le 28 février, qui est une étape importante, ça nous amène à la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et chez les enfants, et la question du pass vaccinal. Peut-être pas dans tous les milieux, peut-être qu'on gardera à ce moment-là le pass vaccinal dans les endroits à fort risque de contamination. On vient de rouvrir les discothèques, on sait que c'est à risque, on va peut-être pas mettre en péril la réouverture des discothèques au bout de seulement un mois. Donc je ne dis pas qu'on allégera tout, mais probablement qu'à la mi-mars, si les conditions sont réunies, on pourra alléger à nouveau. Les conditions réunies, ça veut dire quoi? Que l'hôpital est en état de fonctionnement normal. On n'est plus obligé de déprogrammer des soins. Ça veut dire que la charge sanitaire en réanimation, elle n'excède pas 1000-1500 malades. Et ça veut dire que la circulation du virus, elle se poursuit, mais elle est très faible dans notre pays. Si le virus circule beaucoup moins et que les hôpitaux sont encore une fois en état de fonctionner, rien ne nous empêchera de le faire.
Le ministre de la Santé chez nos confrères de France Info ce matin. Prudence des infectiologues qui pointent pour certains l'absence de critères sanitaires stricts. Le niveau de contamination reste élevé, même si la tendance est en baisse. 3235 patients Covid sont encore en réanimation. Mais le ministre de la Santé défend, lui, la politique de la France. Lever les contraintes par paliers. Avec une nouvelle étape franchie, aujourd'hui, nous pouvons à nouveau manger dans le TGV, grignoter du pop-corn au cinéma, assister à des concerts debout et consommer au comptoir pour le plus grand bonheur des clients et des patrons de bar. Illustration à Lyon, Christophe Vincent.
Il boit son café debout et pour lui, ça veut dire beaucoup. Pascal, à Sainte-Foy-lès-Lyon.
C'était café au comptoir. Ouais. Et bien content de pouvoir retrouver la place debout.
Quand on est assis, c'est le même café, ça change rien.
C'est le même café, mais bon, c'est pas la même ambiance, quoi.
Jérôme Sauron acquiesce, c'est le patron du bar PMU.
Comme nous, on a un bar de quartier, on a des gens de quartier qu'on voit tous les jours, c'est plus direct, quoi, c'est mieux. Surtout les anciens, quand ils rentrent chez eux, ils sont tout seuls, et puis là ils voient du monde, ils boivent leur petit verre, leur petit café, tout va bien, quoi.
À la belle époque, à Tassin, on a rangé l'ardoise comptoir non accessible, mais Ginette, 95 ans, reste assise.
Moi, je suis âgée. Je préfère être assise. Je retrouve des amis, voyez-vous, on discute et puis je passe le temps. Tous les matins, 9h30, je suis au café.
Prochaine étape, le masque. Réaction du patron Jérôme Coudray.
Non, le masque, ça ne va pas changer grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est acquis. Quand on aura le droit de l'enlever complètement, j'ai beaucoup de personnes, de clients qui vont le garder.
Et il ajoute, ces deux ans nous ont fait beaucoup de mal, rien ne sera plus comme avant. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et à mesure que les contraintes sanitaires se desserrent, les robinets de l'aide économique se referment, fini le quoi qu'il en coûte. Stratégie nécessaire pour préserver l'activité et nourrir la croissance, note aujourd'hui la Cour des comptes qui publie son rapport annuel. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
La juridiction financière estime qu'il est temps maintenant de résorber les déficits devenus structurels.
Oui, la Cour des comptes valide le quoi qu'il en coûte. Les mesures d'une ampleur inédite prises pendant la crise étaient nécessaires, dit-elle. Mais la France sort de cette crise plus endettée que ses voisins. L'écart se creuse avec l'Allemagne. Certes, la croissance s'annonce plus élevée en France, 4% cette année, ce qui génère de fortes recettes. Une bonne surprise, engloutie en grande partie dans des baisses d'impôts, la fin de la taxe d'habitation ou la baisse des impôts de production, mais aussi dans des dépenses publiques qui vont durer au-delà de la crise, comme le Ségur de la santé et les salaires des professeurs. Or, cette forte croissance ne va pas durer au-delà de cette année, avertit Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes.
Nous voulons dire notre vigilance. Cette dette est finançable, elle se finance. Mais regardons aussi les nuages économiques qui peuvent exister, l'inflation, la possibilité à un moment donné d'une adaptation de la politique monétaire. Et dans ce contexte-là, il est important de donner des signaux. D'abord la croissance. Il faut renforcer notre croissance potentielle pour maximiser nos recettes. Mais il faut aussi maîtriser les dépenses, maîtriser la dépense publique et le faire de manière intelligente. Ce n'est pas de raboter. Ça, on sait qu'en général, ça rapporte peu et ça ne produit pas d'effet intelligent. Il faut réformer nos politiques publiques.
On vient d'entendre Pierre Moscovici. Delphine, alors quelle solution propose la Cour? Elle parle d'un effort sans précédent.
Oui, car le gouvernement promet de revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Pour y arriver, la Cour des comptes chiffre l'effort à 9 milliards d'euros d'économies par an à partir de 2023. Elle préconise des réformes en priorité sur les retraites, l'assurance maladie ou la politique de l'emploi. Il va falloir revoir la trajectoire de l'exécutif pour rétablir les comptes public, trajectoire jugée incertaine. Les sages appellent le futur gouvernement à fixer une nouvelle juste après la présidentielle.
Delphine Simon du service économie de France Inter. La Cour des comptes s'intéresse par ailleurs à des situations particulières. Elle pointe un soutien tardif et décevant aux étudiants. Le repas à 1 euro a mis trop de temps à arriver pendant l'épidémie de Covid. Les sages de la rue Cambon appellent aussi à augmenter en Ile-de-France le prix du pass Navigo, à mettre en place peut-être un péage urbain pour rétablir l'équilibre des finances liées au transport dans la région. La juridiction se penche aussi sur l'état des maisons de retraite, les EHPAD et leurs 34 000 morts de la Covid entre mars 2020 et mars 2021. Anne-Laure Daniel, la Cour s'est attaquée au sujet des EHPAD dès le mois de novembre, bien avant donc le scandale Orpea, mais le constat est sans appel.
L'assurance maladie a versé une rallonge d'€1,7 milliard pour secourir les EHPAD en 2020. D'autres dépenses ont été réalisées dans le cadre du Ségur de la santé pour augmenter les salaires et réhabiliter les bâtiments. La Cour des comptes réclame donc une sorte de retour sur investissement avec des changements de fonds. Il faut, disent les magistrats, améliorer les liens entre hôpitaux et EHPAD pour mieux évaluer la nécessité d'une admission à l'hôpital, pour mettre en place des soins palliatifs, faire venir dans les EHPAD les équipes d'hospitalisation à domicile et augmenter le nombre de médecins dans les établissements. Dans sa réponse à la Cour des comptes, la ministre chargée de l'autonomie assure que ces réformes ont bien été engagées, mais la loi Grand Âge que le secteur attend depuis des années pour revoir la prise en charge des personnes âgées est restée sur son étagère.
Et dans ce contexte d'économie réclamée par la Cour des comptes, d'où pourrait venir l'argent pour rendre la justice correctement? Il en faudrait plus, en tout cas, si on en juge par le nouvel outil dévoilé aujourd'hui par les présidents de tribunaux judiciaires. Ils ont sorti leurs calculettes, planché pendant des années, et la conclusion est claire, il faudrait un tiers de magistrats en plus, il manque au bas mot 1500 juges. Bonjour Laurélie Carive.
Bonjour.
Ce chiffre donne le tournis. Comment les présidents de tribunaux y sont-ils arrivés?
Alors c'est un travail de fourmi lancé il y a 2 ans pour calculer de la façon la plus fine possible la charge de travail des juges. Poste par poste, tâche par tâche. Pour une audience de divorce par exemple, comptez en moyenne 3 heures par dossier, 4 à 6 heures par affaire pour un juge de l'expropriation, plus le transport. Tout ça est traduit en équivalent temps plein. Et à la fin d'addition, qui ne tient même pas compte de Paris, on arrive à ce chiffre. 1500 juges supplémentaires seraient nécessaires, c'est plus 35%. Et encore, on est dans la fourchette basse, explique Benjamin de Paris, à la tête de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires.
Vous verrez que les temps d'évaluation ne sont pas forcément extrêmement généreux. et qui correspondent à la réalité du moment. Certains pourront nous dire que c'est même pas assez ambitieux, et même avec ça, il nous faut 1500 postes de magistrats du siège pour combler ce déficit.
D'autant qu'on ne parle ici que des magistrats du siège, en incluant ceux du parquet. C'est donc quelques 2000 magistrats qui manquent au total. Alors que la profession crie sa souffrance depuis plusieurs mois, cet outil doit donc permettre de donner un horizon, dit Benjamin de Paris.
Les collègues ont besoin qu'il y ait des trajectoires qui soient construites. On a trop longtemps fonctionné dans un déni, dans la justice, de faire toujours plus avec moins et sans rien compter. Donc là, aujourd'hui, nous, on a fait cet effort d'un travail sérieux qui n'est pas exagéré et les choses sont sur la table et transparentes.
Reste maintenant à l'exécutif de s'en emparer.
Laurélie Carive, service police-justice de France Inter, merci à vous. À l'étranger, que se passe-t-il exactement à la frontière ukrainienne? La question continue de se poser alors que le Kremlin met en scène la désescalade, images diffusées de troupes russes quittant la Crimée, implication démentie dans la cyberattaque contre l'Ukraine aujourd'hui. Pas un seul soldat russe ne restera en Biélorussie une fois les exercices terminés, promet le président Poutine. Scepticisme en Occident, l'OTAN estime n'avoir aucune preuve sur le terrain. Elle dit même constater un renforcement militaire à la frontière. Côté européen, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, affichait lui aussi sa prudence sur France Inter ce matin.
Je pense que la visite du président Macron à Moscou a marqué la fin de l'escalade. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la désescalade? Oui, peut-être, il faut voir. Je pense que la Russie a joué avec le froid et le chaud. Un jour, on nous dit que tout est possible, qu'il va revenir à la table de négociation. L'autre jour, il envoie une escadre en mer Noire. Donc, il faut être préparé pour négocier, si on le peut. C'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on cherche. Mais aussi, un exercice de dissuasion si la négociation n'est pas possible.
Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères avec Léa Salamé sur France Inter. La présidente de la Commission européenne, elle se veut rassurante sur les éventuelles conséquences économiques de cette crise. L'Union européenne peut se passer du gaz russe cet hiver, assure Ursula von der Leyen, car elle a diversifié ses approvisionnements. Côté ukrainien, maintenant, on célèbre la journée de l'unité, jour de fête, décrété par le président Volodymyr Zelensky. Le chef d'État a suivi ce matin des manœuvres militaires dans la région de Rivne, dans l'ouest du pays. Il doit maintenant se rendre à Mariupol, une des dernières villes de l'Est contrôlée par Kiev, sans doute la plus menacée en cas d'invasion. Les habitants, eux, sont invités à déployer leur drapeau. À Kiev, le calme règne, par exemple. Et ce matin, un groupe d'habitants s'est rassemblée Place Maïdan, reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Benjamin Elie.
Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. 10h, heure de Kiev, devant un mur de journalistes, ces Ukrainiens, moins d'une centaine, ont répondu à l'appel du président. Ils donnent de la voix, l'hymne national. Victoria, 52 ans. L'Ukraine doit être unie, martèle Victoria. Depuis des siècles, l'Ukraine a été sous la menace et la domination d'autres nations. Nous devons nous unir, il est temps de défendre notre identité ukrainienne. Je veux que l'Ukraine ait un futur et que sa jeunesse vive dans la paix.
Victor, 35 ans.
Je m'appelle Victor et j'ai 35 ans.
Vous faites quoi dans la vie?
Ingénieur.
Victor explique que l'Ukraine doit être unie en intégrant forcément le Donbass et la Crimée. Ces territoires font partie intégrante de l'Ukraine. Ma vie en est le parfait exemple. Je suis originaire de l'ouest de l'Ukraine, ma femme est de Donetsk et nous nous sommes rencontrés en Crimée. Aujourd'hui, nous avons une petite fille née à Kiev, mais je n'ai pas le droit de vous montrer le lieu de naissance de sa mère, ni l'endroit où nous sommes tombés amoureux. J'espère qu'un jour, je pourrai montrer à ma petite fille tous les lieux où nous avons été heureux.
Allez, on va vous laisser tranquille. L'hymne national retentit à nouveau.
Et le président chinois Xi Jinping, lui, appelle au dialogue. Toutes les parties devraient travailler ensemble à résoudre cette crise, dit le chef d'État au téléphone ce matin avec Emmanuel Macron. Émotion au Royaume-Uni après l'affaire du prince Andrew, accusé d'agression sexuelle aux États-Unis. C'est son frère, le prince Charles, qui est dans le viseur, cette fois de Scotland Yard. La police britannique ouvre une enquête sur sa fondation. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais cela tombe mal pour celui qui est le prince héritier, alors que sa mère, la reine Elisabeth, célèbre cette année 70 ans de règne. L'Union européenne est légitime quand elle souhaite lier les versements de fonds à la Hongrie et à la Pologne au respect de l'état de droit par Varsovie et Budapest. Décision aujourd'hui de la Cour de justice de l'Union européenne. La Pologne dénonce une attaque à sa souveraineté. La Hongrie, un nouveau moyen de pression et un abus de pouvoir de Bruxelles. Berlin, de son côté, salue une décision qui renforce, je cite, notre communauté de valeurs. Le bilan s'alourdit au Brésil suite aux pluies diluviennes de Petrópolis près de Rio de Janeiro. Il s'élève désormais à 34 morts selon la mairie. La ville a vu tomber en moins de 6 heures les quantités d'eau attendues pour tout le mois de février. À l'étranger encore, le redéploiement pourrait être précisé ce soir ou demain matin concernant la présence française au Sahel. Paris et ses partenaires européens devraient annoncer un retrait sous la pression des militaires désormais au pouvoir au Mali et dessiner peut-être les contours d'un nouveau dispositif car les groupes djihadistes sont encore présents dans la région. La politique en France, c'est cette nouvelle étape de ce qui ressemble de plus en plus à un chemin de croix pour la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo. Les adhérents du parti Place Publique, fondé par Raphaël Glucksmann, décident de ne pas se ranger derrière la maire de Paris. Ils ne veulent soutenir personne. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Cette absence d'appui symbolique n'arrange pas les affaires d'Anne Hidalgo.
Oui, face à l'éclatement de la gauche, nous ne soutenons aucune candidature spécifique. Voilà ce qu'explique Raphaël Glucksmann, le chef de file de Place Publique, un temps proche de la primaire populaire, choisit de ne pas choisir. Les 28 000 militants sont libres de soutenir n'importe quel candidat. Mais c'est pour Anne Hidalgo que cette décision a les conséquences les plus visibles. Le PS s'était allié en 2019 avec Place Publique pour les européennes et la candidate socialiste pouvait légitimement attendre en retour un soutien. Peu importe, ça n'a aucun impact sur la campagne, répond Patrick Kanner qui dirige le groupe socialiste au Sénat. L'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, lui, fustige une alliance qui n'aurait pas dû avoir lieu et parle d'émiettement de la gauche.
Cette présidentielle pour la gauche et le Parti Socialiste marque une grande difficulté politique et idéologique. Perte de repères, incapacité à avoir une boussole politique qui conduit même quelqu'un comme Raphaël Glucksmann à ne pas soutenir ceux qui l'avaient soutenu au moment des européennes, alors qu'il est député européen aujourd'hui, et en plus à ne décider de ne soutenir personne. Ça en dit long quand même sur le désarroi de tous ces gens-là.
Ah, difficile d'ailleurs d'estimer comment vont se positionner les adhérents de Place Publique, tiraillés entre sociaux-démocrates, France Insoumise, écologistes. Presque une photo de l'électeur type de gauche à moins de 60 jours du premier tour.
La candidate socialiste pas soutenue par Place Publique, Information France Inter. C'est aussi un article à lire sur notre site franceinter.fr. De l'autre côté de l'échiquier, Nicolas Bay contre-attaque. Accusé d'espionnage au profit d'Éric Zemmour par le Rassemblement National, le porte-parole du RN suspendu de son poste, va porter plainte, dit-il, pour diffamation. Son parti l'accuse purement et simplement de sabotage. Eux comptent bien faire entendre leurs propositions dans la campagne présidentielle en cours. Les représentants des consommateurs donnent de la voix aujourd'hui à propos de la priorité des Français, le pouvoir d'achat. L'UFC Que Choisir met entre autres dans le débat 22 mesures pour libérer 15 milliards d'euros de pouvoir d'achat, Agnès Soubiran.
Soit 524 euros par famille. Tous les secteurs sont concernés, les classiques frais bancaires et les plus discutés actuellement comme la demande d'une meilleure régulation du marché de l'électricité. Les mesures mises en place par l'État pour cette année ne sont pas suffisantes, estime Antoine Autier, responsable des études à l'UFC Que Choisir.
Qui aujourd'hui, en tout cas, a financé le parc nucléaire? Ce sont finalement les consommateurs sur la facture. Donc il est logique que ce soit les consommateurs qui tirent les bénéfices de cette compétitivité du parc nucléaire et pas EDF en allant vendre son électricité nucléaire sur les marchés internationaux.
Cette réforme permettrait aux consommateurs d'économiser plus de 2 milliards d'euros et pour calculer au plus juste le pouvoir d'achat, il faut des données fiables. 60 millions de consommateurs lancent donc en ce mois de février son observatoire de l'inflation. Les prix de 31 produits de base seront analysés tous les mois par Lionel Mauguin qui dirige la rubrique argent.
L'idée c'est de, au-delà des paniers que chacun peut faire peut-être dans son coin, c'est d'avoir un indicateur qui fasse référence, qui est incontestable et qui puisse être la base des débats futurs.
Dans le collimateur ce mois-ci, le prix de l'huile, plus 2,8% pour les marques distributeurs, plus 7% pour les premiers prix. Et de nouvelles hausses sont attendues dès le mois prochain, avec la fin des négociations commerciales.
L'Europe, la tête dans les étoiles, les ministres en charge de l'espace sont à Toulouse aujourd'hui pour parler politique européenne en la matière. Sur la table, notamment cette idée de constellation de satellites de communication sécurisés mais aussi la gestion délicate des débris spatiaux. Le président français Emmanuel Macron est attendu dans l'après-midi. On reste dans le ciel, celui de Noyal-Musillac, dans le Morbihan, qui ne se peuplera pas, finalement, d'éoliennes. Une association vient d'avoir raison du parc qui devait entrer en service dans quelques semaines. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé hier l'autorisation d'exploitation. Maxime Glorieux, trois éoliennes étaient pourtant en fait déjà construites.
Un mât de 117 mètres de haut et des pales de 62 mètres de long pour ces trois éoliennes, situées à proximité d'une centaine d'habitations. C'est la fin de deux années de procédures judiciaires pendant lesquelles le promoteur, Énergie Éolienne France, a effectué les travaux. Les éoliennes sont en phase de test, mais la justice a reconnu une atteinte au paysage et au voisinage. Un projet désormais hors la loi, mais le promoteur a deux mois pour se pourvoir en cassation. Les riverains, eux, espèrent ensuite une annulation définitive et un démantèlement des éoliennes. Mais leur avocate, maître Mathilde Le Guen, reste prudente pour la suite. Son cabinet a obtenu en 2009 un jugement similaire pour des éoliennes à Gouerne, près de Pontivy. Elles ont fonctionné ensuite pendant 12 ans avant un arrêté préfectoral le mois dernier pour ordonner leur démantèlement.
Maxime Glorieux de France Bleu Armorique. Une médaille dorée comme son casque de skieur fonceur. Clément Noël offre aujourd'hui à la France sa 13e médaille et son 4e titre olympique lors de ses Jeux de Pékin. Clément Noël, 24 ans, originaire des Vosges et dont le slalom a fait vibrer ce matin les habitants de sa station d'origine, Ventron. Bonjour Mathilde Emy.
Bonjour Marion.
Ventron qui rêve de profiter de l'occasion car cette station familiale est en bien mauvaise posture économique.
Oui, ce sont ses parents qui habitent toujours cette commune de 800 habitants qui ont mis Clément Noël sur des skis dès l'âge de 2-3 ans à l'US Ventron. Cette petite station de l'Ermitage est une station de cœur, raconte la mère de Ventron, Brigitte Vanson.
Clément, il a fait ses traces et je crois qu'il a tout de suite montré ses prouesses à l'USV. Il n'oublie pas ses débuts et il n'oublie pas son club non plus. Il y a quand même un attachement à cette station, à cette montagne qui a fait ce futur champion.
Clément Noël est rapidement parti, bien sûr, s'entraîner dans des clubs qui l'accompagnent jusqu'au niveau olympique. Mais il revient à chaque fois sur les pistes de son enfance, non pas sur des skis, mais à pied, car il n'y a plus de station. Elle est fermée depuis 2020 par arrêté préfectoral et notamment faute de travaux d'entretien. Coup du sort, le propriétaire de cette station familiale qui nourrissait un projet de station 4 saisons décède brutalement en mai dernier. La station vient donc d'être placée en liquidation judiciaire en décembre. Elle attend des repreneurs, la maire Brigitte Vanson.
Je souhaite ardemment, ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus et on l'espère que ces pistes réouvriront. C'est une station par excellence parce que c'est une petite station. Il n'a pas neigé depuis fort longtemps. Il n'y a pas eu de canon à neige puisqu'elle ne tourne plus. Mais la neige y est toujours sur les pistes. Les pistes sont bien orientées. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut peut-être mettre un petit peu le paquet. J'ai hâte qu'on trouve une solution. Et là, Clément Noël aura toute sa place pour faire l'inauguration.
Et on saura donc si la station sera reprise dans une dizaine de jours.
13 médailles olympiques pour la France. 10e au tableau des médailles. On en parle avec la chef de la délégation française à Pékin à 13h30. Nathalie Péchala, présidente de la Fédération française des sports de glace. Il sera question aussi de sport au féminin et de sport en général. Vos questions et vos témoignages 01 45 24 7000. L'autre image sportive du jour, c'est ce but de Kylian Mbappé. Coup de pied décisif de l'attaquant du Paris Saint-Germain hier soir dans les dernières secondes de ce match de 8e de finale de Ligue des champions de football contre le Real Madrid. Et Paris l'emporte 1-0 face au club madrilène sous l'œil admiratif de la presse espagnole. D'autant plus que là-bas, Mathieu de Taillac, on espère voir arriver bientôt l'enfant de Bondy.
Marca s'exclame « Qu'est-ce qu'il est bon Mbappé ?» et As le qualifie de bombe. Et tous les deux publient la photo du but de l'attaquant parisien Mbappé de face, le gardien madrilène Thibaut Courtois de dos. Si hier soir, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti définissait le joueur comme le meilleur d'Europe, ce matin, El País parle lui d'un Ronaldo à la française, Ronaldo le brésilien, pas Cristiano, d'un tonnerre très au-dessus de tout autre. Bref, les Espagnols sont subjugués par le talent de Mbappé, comme ces madrilènes qui, au Parc des Princes, l'ont applaudi hier. Un geste pas totalement gratuit, car le Real a bon espoir de le faire venir en fin de saison. Pour le reste, les observateurs madrilènes sont bons perdants. Pour Edmundo, le tacticisme pingre d'Ancelotti a transformé le Real en une petite équipe, minuscule, au catenaccio absurde. Pour Marca, le Real est tombé et ce n'est que justice.
Les Madrilènes, que l'on dit orgueilleux, en sont conscients. Il y a beaucoup de travail à faire si le Real ne veut pas être éliminé aussi vite de sa compétition fétiche. Madrid, Mathieu Le Taillac, France Inter.
Acte 2 de ce PSG Real le 9 mars prochain pour une place en quart de finale de Ligue des Champions. De l'émotion, des rebondissements, du cinéma, tout simplement. C'est l'heure de la chronique cinéma du mercredi avec notre Madame 7e Art. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
On démarre avec une grande saga qui n'en finit plus depuis 40 ans d'inspirer les réalisateurs.
Et voilà, quelques notes suffisent à le reconnaître. Indiana Jones, incarné depuis 40 ans par le comédien Harrison Ford, revisité cette semaine dans un film d'animation, Hopper et le hamster des ténèbres. L'histoire d'un lapin avec des pattes de poulet, courageux mais ultra maladroit, qui se verrait bien avec son grand chapeau d'aventurier découvrir des trésors oubliés. Un peu comme le héros d'Uncharted, Nathan Drake, que les gamers connaissent bien avec ses 40 millions de jeux vendus partout dans le monde. C'est désormais aussi un film d'aventure qui sort ce mercredi, là encore inspiré d'Indiana Jones avec Tom Holland. Une histoire de chasse au trésor très proche du jeu qui devrait plaire également à ceux qui n'ont jamais touché une console. Le film a été conçu comme un préquel et porte sur la jeunesse du héros avec plein de méchants, des effets aussi dans tous les sens. Pas toujours très subtil, mais on ne passe pas un mauvais moment. Ce sera en tout cas très bien pour le retour du pop-corn dans les cinémas.
À l'affiche également ce mercredi, Un autre monde avec Vincent Lindon, dont on a déjà parlé sur France Inter.
Exactement, super-héros cette fois du monde du travail dans le nouveau film de Stéphane Brisé qui vient clore avec vraiment beaucoup de justesse une trilogie démarrée en 2015 avec La loi du marché, puis le film En guerre avec donc une nouvelle fois Vincent Lindon pour incarner aujourd'hui un patron après avoir joué les cadres au chômage, les syndicalistes. On découvre ici à la tête du site d'un grand groupe, gérant à la fois son divorce, un plan social qui va complètement modifier son logiciel de pensée. Il se croyait taillé pour le job, il sera pris en fait à la place dans une énorme machine à broyer, seul contre tous, sauver les actionnaires au mépris de la sécurité des employés. C'est vraiment le film à voir cette semaine. L'interprétation parfaite, le ton du film très juste, pas du tout manichéen, sur le cynisme ambiant et aussi la grande solitude des managers de proximité.
Et c'est une interview à réécouter sur franceinter.fr. Votre dernier choix, Corinne, Jean-Pierre Jeunet, Big Bug, à découvrir, non pas au cinéma, mais sur Netflix. C'est un film de science-fiction avec des robots.
Qui se révoltent. C'est une comédie à huis clos, sur un ton satirique, mais qui pose une question très sérieuse. L'humain sera-t-il bientôt facultatif? Vaste sujet traité à grand renfort de machines sophistiquées et délirantes. Nous sommes dans le film en 2050. L'intelligence artificielle est partout et Jean-Pierre Jeunet, comme un poisson dans l'eau, avec son goût pour la bidouille et son univers très créatif. Ces robots ont une dégaine d'enfer, un mi-chemin, on va dire, entre Robocop et une peinture d'Archimboldo. Le résultat final est évidemment très décalé, c'est sa touch. Les décors, attention, piquent un peu les yeux et la mise en scène façon sitcom ne rappelle pas forcément les meilleurs moments des débuts de soirée à la télé. Bref, il n'y a pas de demi-mesure, on adore ou on déteste.
La chronique ciné de Corinne Pellissier revient mercredi prochain et c'est un temps justement à s'abriter dans une salle de cinéma. La météo dans un instant.
France Inter présente dans la collection de livres pour enfants Oli deux nouveaux titres. Le Petit Chevalier par
Claude Askelevitch.
Une princesse et son valeureux prétendant se marient grâce à un gentil dragon. Et La vie secrète de Doudou Lapin par
Julien Blangras.
Un petit garçon et son doudou n'aiment pas se retrouver l'un sans l'autre. Une histoire et
oui.
Des contes du soir, imaginés par de grands auteurs, magnifiquement illustrés. Une coédition France Inter, disponible en librairie.
France Inter aime
Venise, la sérénissime, au bassin des Lumières. Voyage à Venise à travers les chefs-d'œuvre des grands maîtres qui l'ont représenté. Tintoret, le Titien, Véronèse ou encore Canaletto. Une expérience sensorielle inédite dans la base sous-marine de Bordeaux. En immersion au cœur de l'art vénitien et des trésors architecturaux d'une ville à l'histoire exceptionnelle. Venise, la sérénissime, à découvrir en ce moment au Bassin des Lumières. Un événement France Inter.
Le temps de votre mercredi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Beaucoup de nuages et de vent.
Oui, hormis la Provence et la Haute-Corse qui auront un après-midi plutôt ensoleillé, ce sont les nuages qui l'emporteront sur le reste du pays. La couche nuageuse sera bien compacte entre les plages de la Manche et de l'Atlantique jusqu'au Massif Central, aux Alpes du Nord, au Jura et au Grand Est. Quelques petites pluies faibles et éparses pourront même s'échapper, mais ce sont surtout sur les contreforts du relief qui auront que le temps sera bien pluvieux cet après-midi, avec une limite pluie-neige assez haute, au-dessus de 1800-2000 mètres d'altitude. L'après-midi sera aussi bien venté, notamment dans le domaine de la Tramontane et près de la Manche. Et puis le vent va continuer de se renforcer avant la fin d'après-midi sur le Nord-Pas-de-Calais. Ce soir, de violentes rafales balayeront aussi la Normandie et les Hauts-de-France, ainsi que les Pyrénées-Orientales et l'Aude, avec des pointes possibles à plus de 110 km par heure. Et puis le vent sera quand même un cran en dessous sur le Grand Est ce soir et cette nuit. Déjà douce hier, les températures seront encore assez élevées aujourd'hui, avec des maximales qui seront souvent 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Prévoyez 11 à 17 degrés en général, avec quand même jusqu'à 19 degrés à Perpignan.
Et merci Sébastien Léas de Météo France. Il est presque 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
C'est la belle image de la semaine. Le couple Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en pleine épreuve de danse sur glace avant de décrocher le titre olympique aux JO de Pékin. Elle est en robe dorée, tête penchée, yeux fermés. Lui, vêtu de rouge et noir, semble murmurer à son oreille. On entend presque la musique de Gabriel Fauré qui a rythmé leur victoire. Et c'est cette photo qui prend quasiment toute la place en une du journal L'Équipe, alors que le soir même se tient un duel au sommet PSG-Real en Ligue des champions de football. Un signe des temps qui changent peut-être et de la renaissance du patinage français. Pour en parler avec nous dans ce 13-14, Nathalie Péchala, présidente de la Fédération française des sports de glace et chef de mission de la délégation olympique française. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Pékin donc, et puisque vous dirigez cette délégation, je voudrais commencer par vous demander votre réaction à cette 13e médaille française, celle de Clément Noël, le skieur médaillé d'or en slalom ce matin.
Bah évidemment, beaucoup de joie. Hein. On est très fiers de lui. On savait qu'on avait une équipe alpine qui a... Alors, j'aime pas du tout cette expression-là, essuyé quelques déceptions, parce que ça veut dire qu'on met beaucoup d'espoir et beaucoup d'enjeux sur leur performance. Mais voilà, ça fait partie du sport. Et puis, il y a la concurrence, il y a l'environnement extérieur et tous les leviers qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en tout cas, c'était vraiment la bonne surprise. On savait qu'il était bien positionné sur le papier pour avoir une médaille, et une médaille de ce métal-ci.
D'or.
Mais quand ça tombe, c'est... Ouais, exactement. Et quand ça tombe, ça paraît irréel. On se dit qu'est-ce qu'il a fait pour aller la chercher. Surtout que la première manche, il était très mal engagé. Donc ça a été le retournement de situation. Et c'est là où, quand on fait des loopings émotionnels, c'est là où on profite le plus.
13 médailles en tout pour la France pour l'instant, pour un objectif de 15, comme à Pyeongchang en 2018. Vous y croyez plus que jamais?
Bah oui, j'ai envie d'y croire. Bah là, on nous a montré que tout était possible. Hein. Parfois, on en attend, on les a pas. Parfois, on les attend pas, on les a. Enfin, ça s'appelle le sport de haut niveau, et c'est toute la beauté et l'enjeu des Jeux Olympiques, hein, une fois tous les 4 ans, où on est tous dans le même bateau pour porter haut les couleurs de la France. Donc oui, si en plus on arrive à faire mieux qu'en 2018, c'est extraordinaire vu les conditions dans lesquelles nos athlètes se sont entraînés les 2 dernières années avec cette pandémie. Ça serait vraiment incroyable.
Alors Nathalie Péchala, pour l'instant la France, elle est 10e au tableau des médailles. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut remonter d'ici la fin des JO? C'est dans 4 jours.
Bah oui, tous les espoirs sont permis, hein. C'est déjà chouette le top 10, mais si on peut aller un peu plus haut, moi je dis pas non. Et je pense que tous les athlètes sont du même avis et donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, jour après jour, pour cet objectif commun.
Alors Nathalie Péchala, je vous propose de revenir sur le titre dont je parlais, de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron mardi. Est-ce qu'ils signent ce titre un retour en grâce du patinage qui avait perdu un peu en popularité dans le cœur des Français?
Oui, enfin là, je le trouve un petit peu dur. Je trouve le raccourci un peu facile, mais enfin, je rappelle quand même qu'ils avaient gagné une médaille d'argent en 2018. Oui, l'or remonte exactement à Pyeongchang. L'or remonte en 2002 avec Marina Anissina et Gwendal Pesra. Mais dans l'intervalle et depuis les années 90, on a toujours eu des champions français qui ont décroché des médailles au championnat d'Europe, au championnat du monde. On a toujours été présents. Alors oui, on n'a pas un vivier énorme, mais c'est possible. Les Français brillent dans ces disciplines artistiques et sont capables des meilleures choses et de susciter des vocations également dans les yeux des jeunes pratiquants. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est cette transmission.
Et Papadakis et Cizeron, ils s'entraînent tous les deux à Montréal, au Canada. Est-ce que c'est un enjeu de les faire revenir en France?
L'enjeu, il est là où on décide de le mettre. Si l'enjeu, c'est de gagner et que ce qu'on identifie, c'est de s'expatrier pour rejoindre un centre d'entraînement par rapport à un diagnostic établi. Je suivrai dans cette direction-là et je vais pas vous dire le contraire parce que je l'ai fait moi à titre personnel aussi. Par contre, si l'enjeu c'est de capitaliser sur le long terme et effectivement de d'empêcher nos sportifs de s'expatrier, bah va falloir qu'on mette un petit peu va falloir qu'on passe la seconde sur le nombre d'équipements sur le territoire français, va falloir un accompagnement plus assidu sur nos entraîneurs, va falloir débloquer des budgets aussi pour accueillir les experts dont on a besoin, des acrobates, des préparateurs physiques, des danseurs au sol, enfin la liste est longue. Donc il y a c'est une politique qu'il faut prendre ensemble avec le gouvernement français et en établissant les objectifs et en priorisant simplement sur les enjeux et sur les disciplines.
Et quelle relève après Papadakis et Cizeron dans le patinage français?
Alors vous avez dû voir sûrement Adam Siaoumfa, Kevin et Mose également chez les garçons lors de ces Jeux Olympiques 12e et 14e qui peuvent vraiment faire des très belles choses dans les deux années à venir. Je pense que ça sera un joli fer de lance. Ces deux hommes, on a aussi envie de pousser les disciplines individuelles femmes et couples artistiques parce que l'idée, ce serait quand même de s'engager dans cette épreuve par équipe et pour ça, il faut qu'on remplisse les quotas dans chaque catégorie du patinage artistique. Donc aujourd'hui, on n'y est pas. Par contre, on a 4 ans et ça commence aujourd'hui pour faire les progrès nécessaires pour y arriver. Encore une fois, c'est un travail en collaboration qu'on doit mener avec l'Agence nationale du sport, le ministère des Sports, pour qu'on soit raccord sur les ambitions et sur les moyens qu'on va mettre en face.
Patrice appelle le Standard de France Inter. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Nathalie Péchala?
Oui, voilà. Je veux savoir, il y a quelques années, ce qu'on appelait la guerre froide, il y avait des interférences entre des considérations géopolitiques et les notes du jury. Et je voudrais savoir s'il y a encore, malheureusement, des risques à ce niveau-là. Je veux dire qu'une belle image que je garde des Jeux Olympiques, c'était le podium de Quentin Fillon-Maillet, avec le drapeau français entouré du drapeau russe et du drapeau américain. Et je trouvais que c'était quand même quelque chose de symbolique qui était beaucoup plus joli à voir que des considérations guerrières qu'on peut avoir actuellement.
Nathalie Péchala, est-ce qu'effectivement il y a encore des considérations géopolitiques, y compris dans les notes qui peuvent être attribuées aux athlètes?
Faut comprendre que le sport pour certains pays c'est quand même soit un outil de propagande, soit une arme, presque, dire, attention, le mot est fort, hein, mais une arme de guerre, c'est-à-dire c'est une façon aussi de faire briller son pays. La France, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on est surtout dans la réalisation de l'athlète, la performance, la construction d'un projet collectif et individuel. Donc on n'est pas, c'est choquant pour nous Français, mais n'empêche qu'on est quand même aux Jeux Olympiques et que les nations se battent les unes après les autres et que forcément il y a des amitiés, des acquaintances qui se font et se défont de par l'historique, de par les enjeux, de par les objectifs. Et ça veut pas dire que c'est mal, au contraire, il y a aussi des alliances qui sont importantes pour pouvoir progresser, pour créer une émulation dans certains sports. Je pense au patinage de vitesse par exemple, où on n'a pas d'anneau, on est obligé d'envoyer nos licenciés se former à l'étranger, et tant mieux. Et ça développe encore une fois des compétences et on en tire les résultats.
Sur la géopolitique, c'est un contexte particulier quand même, ces Jeux Olympiques de Pékin, avec un régime qui ne respecte pas vraiment les droits de l'homme. Il n'y avait pas de présence française à la cérémonie d'ouverture, c'est un accident ou c'est un signal diplomatique?
Non, j'ai pas entendu parler d'un signal diplomatique. Après, moi, je n'ai pas les calendriers de tous les institutionnels qui devaient être là à Pékin. Et puis, on sait qu'il y a la pandémie qui est passée par là aussi et qui a retardé ou annulé certains déplacements. Voilà, après les Jeux Olympiques, je pense qu'il faut rappeler que c'est important de respecter cette trêve olympique, parce que même si le sport est là pour que les cultures s'affrontent sur le terrain sportif, mais surtout se rencontrent dans les coulisses, c'est pas les sportifs qui décident des emplacements, c'est le Comité international olympique. Et les sportifs, faut comprendre qu'ils sont aussi, enfin, c'est quelque part, c'est leur passion et c'est aussi leur job de se préparer pour être performants. Et eux, évidemment, ils sont focus là-dessus. Donc, c'est un sujet qui est remis sur la table, mais qui doit rester pour moi. Plus que dans le vestiaire, à l'hôtel, au village.
La très jeune Russe contrôlée positive aux produits dopants, Kamila Valieva, qui a été autorisée finalement à concourir, elle est en tête du programme court sur la glace. Vous en pensez quoi ?
J'en pense déjà qu'on n'a pas les conclusions et que bien sûr on sera attentif à celles-ci lorsqu'elles sortiront. J'en pense que c'est malheureux et que si le cas de dopage était positif, je serais tout simplement atterrée de voir qu'on en est là après l'épisode de Sochi 2014. Mais bon, ça sert à rien de...
On verra.
Je suis pas juge. Moi, tout ce que je veux, c'est que la lumière soit faite sur cette histoire.
Nathalie Péchalin, on est en pleine semaine sport féminin toujours, qui est une opération de sensibilisation pour inciter les médias à mettre plus de sport féminin à l'antenne. Alors, la ministre Marlène Schiappa propose un quota de 50% de retransmission de compétitions féminines. On est à 20% aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec elle?
Je sais pas quoi vous dire à part que nous on est une fédération qui est totalement à l'opposé, c'est-à-dire qu'on a plus de 80% de licenciés EES. Donc pour nous, c'est l'inverse, on cherche des hommes. Donc quand j'entends ça, je le comprends, mais je vous avoue que c'est pas la situation qu'on vit nous au quotidien, que nous on cherche les hommes, les petits garçons pour devenir nos champions de demain, et qu'après sur la médiatisation, moi tout ce qui est de côté quota, je vais même vous dire, même sur les postes à responsabilité, où je comprends la problématique, mais j'ai beaucoup de mal sur le papier, parce que je priorise la compétence, la disponibilité, l'engagement, et le quota pour moi
plutôt que le
genre. Alors, plutôt que le genre, et sur la médiatisation, je suis sûre que ça peut donner un coup de pouce et donner envie aux petites filles de se mettre au sport, et pour ça je trouve que c'est une très belle idée. Mais attention au quota.
Il y a eu des questions quand même sur les violences contre les femmes dans le sport, et notamment les agressions dans le milieu du patinage. Depuis que vous avez pris la tête de la fédération, les choses ont changé. Vous faites quoi pour éviter que ça se reproduise?
On fait tout ce qu'on peut. On a créé, on a fait une convention avec Colosse au pied d'argile, qui est une association qui lutte justement contre les violences sexuelles sur le terrain sportif. On a fait des formations, des sensibilisations pour toutes les populations de la fédération, les licenciés, les dirigeants, les sportifs de haut niveau. C'est quelque chose qu'on va continuer, parce qu'avec la pandémie ça a un petit peu traîné. Au-delà de ça, beaucoup de communication, et puis surtout deux choses très importantes. Un, la Fédération française des sports de glace se porte partie civile dans toutes les histoires de violences sexuelles, et deuxièmement, on vient tout juste de remporter un projet d'envergure grâce au programme Erasmus+, qui est un programme européen, et donc on va lutter contre les violences sexuelles dans les sports de glace avec différentes fédérations nationales et le soutien de la Fédération internationale pour concrètement apporter des outils, des clés et lutter contre ce fléau à l'extérieur aussi de nos frontières.
Et ces derniers jours, il y a un collectif de footballeuses qui s'est auto-baptisé les hijabeuses, qui militent pour le droit de porter le voile dans les compétitions. Vous en pensez quoi, vous, en tant que représentante de la délégation française au JO?
Je pense que le sport, c'est pas un terrain où on doit exprimer des choix politiques, religieux ou quels qu'ils soient, et on doit conserver la neutralité. Et pour moi, c'est le drapeau de notre nation avant tout.
Nathalie Péchalin, il y a une étude de l'ANSES qui a montré hier que seulement 5% des adultes avaient une activité sportive suffisante pour protéger leur santé. Vous avez un message aux candidats à la présidentielle dans ce contexte?
Oui, le message, c'est qu'on a travaillé dur avec le Comité national olympique pour justement apporter des directions sur les prochaines élections, et donc surtout les programmes des candidats, et mettre enfin le sport au cœur du sujet qui concerne l'ensemble de la population à différents niveaux. Là, ici à Pékin, on parle de haute performance, mais le sport pour tous, le sport santé, le handisport, le sport surtout comme moyen d'éduquer les enfants
doit être une priorité.
ça doit être une priorité.
Si je vous entends.
Exactement.
Nathalie Péchat, la présidente de la Fédération française des sports de glace et chef de mission de la délégation olympique française aux Jeux Olympiques. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Merci aussi à Sandrine Malon et Jérôme Val pour avoir assuré la liaison technique.
France Inter, le 13-14.
13h44 sur Inter à suivre, suite de notre feuilleton dans cette classe passerelle du lycée Antonin Artaud de Marseille. Un pont de l'enseignement professionnel vers l'enseignement général avec parfois une école comme Polytechnique à l'arrivée, vous verrez. Ensuite, ce sera le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Dans votre chronique aujourd'hui, un autre Bolloré.
Oui, la famille fête les 200 ans de l'entreprise, je choisis l'oncle Guanaël.
On vous retrouve juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Mercredi prochain sortira dans les salles le film Zaï 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 de François Dessagna, film tiré de la BD éponyme de l'auteur Fab Caro. Il est à votre micro le temps d'une chanson.
Le titre de sa bande dessinée best-seller fait d'ailleurs écho à une chanson. Zaï 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 Zaï, on pense tout de suite à Joe Dassin.
Mais oui.
Qui pourtant ne figure pas dans la liste des nombreux artistes que Fab Caro a l'habitude d'écouter.
Moi, je suis plutôt culture pop-rock. Je suis passé par une fascination pour les Pixies, Bowie, Arctic Monkeys. Mais après, ça peut être des Français. J'adore Biolay, par exemple. Wolof, c'est très vaste. Enfin, très vaste dans le champ pop-rock. Pour cela dit, ça va du très punk au très variété. Je suis vraiment très éclectique. Ça dépend des époques et ça dépend des humeurs. Quand j'étais ado, j'étais très punk. Puis avec l'âge, je me suis calmé. Mais tout ça, ça fait un bagage qui fait que j'adore de temps en temps tomber sur un morceau de Bad Religion. Ça me rappelle mes années un petit peu rapides. Et puis, il y a des chansons de Julio Iglesias qui m'accompagnent aussi depuis l'enfance. Il y en a pas mal comme ça. Ouais.
Lesquelles, par exemple?
Oh, il y en a beaucoup de Julio Iglesias. C'est un petit peu la honte de le dire, mais je connais très bien. J'en connais beaucoup. Il y en a une que je trouve particulièrement triste qui s'appelle La Nave del Olvido, le navire de l'oubli.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera. Aún me quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevar. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más.
Cette version de Julio Iglesias est sortie en 1980, Frédéric.
Oui, c'est la reprise d'un succès du crooner mexicain José José. Et Dixit Fab Caro, elle appartient à la bande-son de son enfance.
Ma mère, qui est espagnole, elle est née à Barcelone. Elle écoutait beaucoup ça quand j'étais petit. Déjà, Julio, c'était assez populaire en France, mais j'imagine encore plus pour des immigrés espagnols qui voulaient garder un petit peu cette attache au pays. Et du coup, ça imprime. Je crois que les choses les plus ancrées et contre lesquelles on ne peut rien, c'est ce qui nous a bercé quand on était enfant. C'est la honte de Julio Iglesias. J'en ai conscience. Je ne devrais même pas parler de ça à la radio. Mais c'est un truc qui m'a accompagné. J'ai grandi avec ça. Et chaque fois que je tombe sur du Julio Iglesias, bah, ça me procure une émotion et on ne peut rien contre ça. L'intellect nous dit mais t'as pas honte d'aimer ça. Mais l'affect nous dit si, c'est beau. Quoi.
Vous connaissez toutes ces chansons par cœur ?
Non, moi je connais bien la période, on va dire de 77 à 80, je connais parce que c'est l'époque où ma mère l'écoutait quand j'étais petit. Ce qu'il a fait après, je ne connais pas du tout, j'ai pas suivi. Après, j'ai lâché l'affaire parce que j'écoutais de la vraie musique. Mais malgré tout, si j'entends un morceau de Julio Iglesias de cette période, il y a quelque chose de l'enfant chez moi qui va se réveiller. Il y a l'adulte qui va dire pop, 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 n'écoute pas ça. Mais il y a l'enfant qui va dire attends, laisse-moi écouter. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre.
Espera un poco, un poquito más.
Est-ce que ça appartient aux chansons qui vous font pleurer ?
Ah, certaines, oui. Ah, oui. Bah, c'est l'héritage tango. Moi, j'adore le tango aussi. C'est l'héritage tango. C'est toujours très, très mélancolique. Donc, c'est le blues espagnol, en fait. Et Julio Iglesias a toujours chanté que ça, que l'histoire d'amour perdu. Alors que C'était le Latin Lover qui devait pas avoir tant de malheur que ça, mais ça a toujours été son créneau. Les amours perdus, les amours déçus, il a toujours été quitté. Dans ses chansons, il est toujours quitté. Voilà, ça c'est la base. Donc je dis celle-là, La Nave del Olvido, mais ça pourrait être n'importe laquelle. C'est toujours le même thème en fait. Tout à l'heure, je disais que quand je tombe accidentellement dessus, c'est pas vrai. Des fois, c'est moi qui vais le chercher. Des fois, sur YouTube, je vais écouter des chansons de Julio pour provoquer ce truc-là de retour à l'enfance, de souvenirs. Ouais, je vais écouter du Julio, le coming out.
La Nave del Olvido, voilà, j'essaie de bien le prononcer, le navire de l'oubli, Julio Iglesias. C'était donc, Frédéric, le choix du dessinateur de BD, Fab Caro.
Fabrice Caro, qui lui n'a pas l'intention de se faire oublier. Zaï, 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 le film sort donc la semaine prochaine. Il publiera deux nouveaux ouvrages au mois de mai.
Et on a hâte. Merci Frédéric, on se retrouve vendredi.
À vendredi.
À 13h49 sur France Inter, retour au lycée Antonin Artaud de Marseille et sa classe de remise à niveau pour les élèves de bac pro qui rêvent de rejoindre l'enseignement général dans leur viseur, IUT ou classe prépa, direction les grandes écoles, et parfois même l'entrée à Polytechnique. À l'arrivée, témoignages et reportages avec Sarah Guibaudeau.
Je m'appelle Guillaume Razoamanana, j'ai 20 ans. J'étais au collège, j'étais pas très studieux. Je préférais jouer aux jeux vidéo, sortir avec mes collègues, tout ça. Du coup, je me suis retrouvé en CAP. Et en fait, en faisant mes stages, je me suis rendu compte que ce qui était manuel, tout ça, c'était pas trop quelque chose qui me plaisait. Moi, dans ma tête, j'allais finir dans une entreprise en tant que technicien. Et là, quand ma prof m'a proposé ça, cette année de remise à niveau, c'est comme une deuxième chance. J'ai directement pris conscience à ce moment-là que des portes s'ouvraient pour moi. En fait. Et là, maintenant que je suis en prépa, j'arrive à me débrouiller, à avoir des notes assez correctes. J'ai choisi la classe préparatoire aux grandes écoles, où je suis actuellement en première année.
Et comment ça se passe?
C'est compliqué. Il y a beaucoup de charges de travail. On a beaucoup de colles. On travaille beaucoup. Mais en s'accrochant, on peut y arriver. Mon rêve, ça serait d'intégrer une école prestigieuse, comme Centrale ou, je dirais pas Polytechnique, parce que c'est quand même compliqué, mais voilà, en tout cas, je travaille pour.
Marc Rosmini, vous êtes le professeur de philosophie. Vous êtes là depuis le début de cette classe préparatoire aux études supérieures, depuis 12 ans. Qu'est-ce que vous savez justement de ce que deviennent vos élèves après et des débouchés que cette prépa un peu particulière leur offre?
Alors quasiment tous poursuivent leurs études. Pour l'instant, on a une minorité d'étudiants qui arrivent à intégrer la classe préparatoire aux grandes écoles. C'est vrai que la marche est haute. Les autres, beaucoup vont en BTS. C'est certain que les jeunes aujourd'hui qui ont une trentaine d'années, qui sont ingénieurs, qui ont des responsabilités, qui ont un salaire confortable, quand ils regardent leur parcours à l'envers, ils disent tous effectivement la CPES a été la bonne rencontre au bon moment pour pouvoir rebifurquer vers des études dont ils se sont avérés finalement être très capables, hein, puisque sinon ils n'auraient pas réussi, mais qui leur avaient été fermées, soit pour des causes sociologiques, on va dire, soit pour des causes psychologiques ou de décrochage ou d'addiction aux jeux vidéo. On a un peu tous les parcours, hein. Assez souvent, quand même, on sait qu'en France, la sélection scolaire se fait sur des critères sociologiques, la catégorie socio-professionnelle des parents et surtout au capital culturel des parents.
Vous avez même eu un élève qui a intégré Polytechnique il y a 2 ans, c'est ça?
Exactement, oui, c'est ça, il y a 1 an et demi en fait, quoi, donc, et qui a fini sa première année. À vrai dire, on ne s'y attendait pas trop, hein, c'était pas dans notre cahier des charges d'envoyer un élève à Polytechnique. On avait déjà un élève qui avait intégré Centrale, on avait des beaux parcours, mais alors bon, Polytechnique, ça a été vraiment la très belle surprise. C'est quand même un couronnement, mais on ne travaille pas non plus pour l'exception. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de faire progresser tous les élèves. Il y a beaucoup d'élèves auxquels on pourrait proposer des parcours beaucoup plus valorisants que ce qui est le cas aujourd'hui. Par exemple, on a un parcours aussi incroyable. C'est un élève qui est aujourd'hui en école d'ingénieur et qui était, quand il était enfant, en classe Ulysse, donc en classe vraiment pour les élèves en grande difficulté. Et c'est vraiment un jeune qu'on a eu, qui est très intelligent, très pertinent, très fin... Mais effectivement, il avait un problème d'écriture, un problème de dyslexie qui l'avait handicapé dans sa scolarité. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir peut-être plus globalement sur l'aspect sélectif et un peu normatif de notre système scolaire et de voir que quand on ouvre des petits espaces un peu d'exception, avec des moyens finalement pas si énormes que ça, hein, parce que bon, c'est quand même l'éducation nationale, on est des profs, voilà. Simplement, il y a un effectif moins chargé, c'est la seule différence. Hein. Quand on donne ne serait-ce qu'un peu de moyens, ben, on arrive à des réussites assez exceptionnelles pour tous les jeunes, quoi.
Feuilleton de Sarah Guibaudot, réalisation Lucie Lemarchand. Et demain, nous serons dans un autre lycée. Émission spéciale en direct du lycée de Les Souriaux aux Ulis en Essonne, avec dans notre cartable deux grandes questions. Les jeunes s'intéressent-ils à l'élection présidentielle? Et après 2 ans de crise sanitaire peu propice au projet, comment gèrent-ils leur orientation?
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire nous parle d'un autre anniversaire aujourd'hui, les 200 ans de la société Bolloré. Ce jeudi, Jean Lebrun, un fest-noz doit marquer l'occasion et en même temps les 70 ans du patron qui pourrait en profiter pour annoncer des modifications à la tête de l'Empire. La fête aura lieu dans le manoir familial où vous avez autrefois été invité, Jean.
Autrefois, hein, il y a très longtemps, dans les années 90. La société Bolloré avait auparavant traversé une mauvaise passe dont le talent de Vincent et les sacrifices des employés l'avaient tiré. Et le manoir, à la pointe de la Bretagne, à Ergué-Gabéry, qui était alors habité par son oncle Gwenaël, qui se félicitait des qualités de Vincent. Celui-ci, de son côté, à ce que j'ai lu, ne ménage pas son admiration. Pour tonton Gwenaël, je la partage, j'ai au moins un point commun avec Vincent Bolloré. Gwenaël observait qu'il aurait peut-être mieux réussi sa vie s'il n'en avait eu qu'une. Lui, il avait fait un peu tous les métiers. Océanographe sur un vieux chalutier reconverti, naturaliste, spécialiste des crabes et des berniques, et à ce titre, docteur en sciences, alors qu'il n'avait pas eu le loisir pendant la guerre de passer son bac. Éditeur, écrivain. Dans le vieux manoir, il aimait camper dans le grand salon. Une mince cloison séparait celui-ci des ateliers. Autrefois, s'il arrivait aux machines de tousser, pendant qu'il sirotait son whisky, il pouvait se porter aussitôt à leur secours. Ainsi avait-il entendu sa fonction de directeur technique des papiers Bolloré, exercé pendant des lustres, papiers réputés. OCB, Audet, Cascadet, Bolloré, le papier à cigarette, les papiers qu'on utilise pour les éditions de la Bible ou de la Pléiade, dont Gwenaël était particulièrement fier.
C'était un formidable raconteur d'histoire, Jean.
Alors, sans doute considérait-il qu'on lui demandait trop souvent le récit du débarquement. Mais enfin, il le servait, de bon cœur. En 1942, à 17 ans à peine, voulant suivre l'exemple de son frère, déjà parti rejoindre Londres, il avait vendu sa jument anglo-arabe, crevette, pour acheter une part dans un bateau du chantier Sibiril destiné à la France libre. Départ par mauvais temps, le moteur qui se refuse à fonctionner, la voile qui se déchire, cependant il arrive à ses fins. Il participe ensuite au commando Kiffer, spécialement formé pour le débarquement. Il en était l'infirmier, le médecin avait été tué et l'autre infirmier évacué. Une fois arrivé sur la digue d'Ouistreham, il rencontre dans une maison dévastée un enfant qui hurle de toutes ses forces après cette journée d'apocalypse. Gwenaël le calme en lui donnant un objet fétiche que lui, le gamin de 19 ans, porte à la ceinture, un petit pingouin venu du manoir de Lodet. Et une image me reste de son récit. La mer était rouge, le sang était salé.
On le voit, hein, Gwenaël excellait dans les images funèbres.
Oui, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé du fest-noz de Vincent demain, mais lui, il rêvait d'un bal où auraient été conviés tous les trépassés qu'il avait aimés. Une de ses fiertés, c'était un film qu'il avait écrit et produit pour la belle actrice Renée Cosima, sa femme, morte prématurément. Ça s'appelait « Les Naufrageurs ». Soit une île du Finistère. Les Bolloré en possèdent une, au Glénan, avec en son centre un lac, habité évidemment par une sorcière. Évidemment. L'île est menacée par la famine. Moïra, une belle jeune femme, interprétée par Renée Cosima, décide d'éteindre le fanal qui signale les récifs aux navigateurs. Et aussitôt, un navire s'échoue, il est rempli de vivres, les naufrageurs de l'île se dirigent vers lui pour supprimer les marins, témoins indésirables. Mais Moïra va jeter son dévolu sur
l'un d'eux. Alors Gwenaël n'avait pas lésiné sur la dépense, faisant construire un village de granit, selon les techniques anciennes, les mêmes qu'au manoir de Lodet, au pied du calvaire de Tronoen. J'ajoute que le tournage de la procession à cet endroit précis avait été assez coûteux, parce qu'il avait fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Les figurants apparaissaient chaque jour que Dieu faisait, raide mort.
Le tournage des naufrageurs avait commencé le 13 mai 1958, le jour du coup d'État d'Alger.
Et il avait distrait Gwenaël de la cause de l'Algérie française, dont il était un fervent défenseur. Parce qu'il faut dire que pendant un quart de siècle, il dirigea la maison d'édition de la Table Ronde, qui éditait de merveilleux livres, dont les attaches avec l'extrême droite, cependant, étaient bien connues. Combien de fois a-t-il été poursuivi pour offense au chef de l'État ? Ses avocats rappelaient alors son engagement dans la France libre. Gwenaël n'a jamais dépassé le grade de chevalier de la Légion d'honneur. Il n'en avait cure.
En Bretagne, Jean, toutes les mémoires se croisent.
La péninsule n'est pas faite d'un seul bloc. Hergé Gabéric, c'est pas seulement les Bolloré, c'est aussi Desguignets, un ancien journalier du village, violemment républicain et anticlérical. Ses mémoires ont eu un formidable succès. Et dans le grand salon de Gwenaël trônait une photo de Léon Blum, prise sur le perron. De retour de Buchenwald en 45, le leader socialiste avait accepté l'invitation des Bolloré à venir se reconstituer au manoir. Je me demande si la photo est encore en évidence dans le grand salon maintenant que c'est Vincent qui le tient.
Allons voir à l'occasion, Jean, quand on sera de passage en Bretagne. Juste après les infos, ce sera la Terre au carré sur France Inter. Bonjour Mathieu Vidard, bonjour Camille Crozet.
Bonjour Marion, Camille va arriver. On va parler d'étalement urbain dans un instant avec le cas en particulier de nos maisons individuelles.
Et ben rendez-vous dans quelques minutes.